Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir tout le monde, alors j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière et que depuis vous avez peut-être sûrement aussi remarqué une petite information importante que les podcasts ne sont plus accessibles pour l'instant sur l'iTunes Store. Alors c'est normal, hein. Certains ont dû remarquer aussi que maintenant on est passé donc en point net, hein, grâce à des dons qui ont été effectués pour la radio. Je suis passé du nom de domaine qui était à l'époque radioterrazen.tk en maintenant radioterrazen.net. Voilà, maintenant on est passé en .net. Et donc c'est pour ça que sur l'iTunes Store, pour l'instant, la migration n'a pas été encore faite. Et donc vous ne pouvez pas les lire depuis le logiciel iTunes. Hein. Pour rappel, vous pouvez toujours les écouter depuis le site qui, une information très importante, va subir une mise à jour, parce que je suis en train de construire en fait un nouveau site qui permettra d'être beaucoup plus complet que celui actuellement et beaucoup plus simple, parce que beaucoup de personnes m'ont retourné comme quoi qu'ils n'arrivaient pas à trouver où poser des questions ou comment écouter les émissions en direct. Alors maintenant, j'ai vraiment tout amélioré grâce à ce site, hein. Donc il devrait peut-être arriver courant semaine prochaine, hein. C'est possible, hein. Pour l'instant je travaille d'arrache-pied dessus, c'est même pour ça que que ce soir là je suis un petit peu à la bourre, que j'ai fait vraiment tout en vitesse, hein, parce que je travaille vraiment d'arrache-pied dessus pour vraiment que ce soit très vite mis en place, pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous, pour pouvoir écouter, et même aussi pour les podcasts. Donc à partir de l'installation de la nouvelle version du site, les podcasts redeviendront disponibles sur iTunes. Et donc voilà, et surtout aussi vous retrouverez la dernière émission de la semaine dernière qui était donc sur le Ho'oponopono de la soirée TerraZen numéro 2 avec Jean Gracier et Maria Elisa Hurtado Gracier, qui étaient venus donc nous parler de ce qu'était le Ho'oponopono. Donc vous retrouverez ce podcast là ainsi que d'autres, celui de ce soir, qui seront mis en place. Voilà. Alors ce soir on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec le Ho'oponopono, hein. C'est un sujet qui est très d'actualité et surtout assez connu, alors on va dire, de ceux qui sont, on va dire, qu'on nous appelle les complotistes. C'est en fait les chemtrails. Alors, qu'est-ce que c'est justement, par exemple, un chemtrail? Alors, ça s'écrit donc en anglais, hein, vous le trouvez en anglais, hein, ça s'écrit C-H-E-M-T-R-A-I-L-S, voilà, au pluriel, pour savoir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, Grosso modo, rapidement, c'est un peu ce que vous trouvez dans le ciel, hein, les jours où il fait beau. Vous voyez des espèces de traînées qui sont derrière les avions. Alors, on peut observer deux types de traînées, hein. Ces traînées, il y a des traînées qui sont très 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 longues et d'autres beaucoup plus courtes. Alors justement, les chemtrails, ce sont les traînées les plus longues et on appelle les contrails, hein, donc ça s'écrit Contrails. Hein, donc la fin est pareille, c'est juste le début qui change, qui elles sont en fait des traînées beaucoup plus courtes, qui sont des traînées tout à fait, on va dire, normales, entre guillemets, parce qu'il y a quand même une pollution qui se fait, hein. Faut pas se leurrer, hein, la combustion du kérosène est comme les voitures, hein, ça pollue tout autant, hein. Donc voilà, on nous met souvent dans la tête, les voitures ça pollue, mais les avions sont exactement pareils. Alors, donc les chemtrails, hein, de l'anglais, chemical trail, traînée chimique, produit chimique répandu illégalement par des avions qui persistent et s'étendent dans le ciel pendant plusieurs heures. Par opposition à ce que je vous disais, les contrails, de l'anglais condensation trail, traînée de condensation provoquée par le gel de la vapeur d'eau générée, rarement, par des avions normaux qui disparaissent en quelques secondes ou dizaines de secondes. Voilà. Alors, le côté, on va dire, complotiste des chemtrails, hein, ces projets secrets des gouvernements des pays industrialisés, financés illégalement avec vos impôts, consistant à épandre des produits chimiques en général à haute et moyenne altitude à l'aide d'avions vraisemblablement en majorité militaires pour une raison cachée du public. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que, comment dire, pour ma part, les chemtrails. Si on remonte quand j'étais beaucoup plus jeune, sur les photos, je me rappelle pas avoir vu des traînées de ce genre-là qui étaient dans le ciel. Donc, il y a quand même une supposition qui est quand même bizarre, hein, parce que moi je me rappelle pas de ça. Et puis même aussi de mémoire, de souvenir, je ne me rappelle pas plus jeune d'avoir vu ce genre de choses dans le ciel, à part des petites traînées normales, hein, les fameux contrails qu'on voyait de temps en temps. Mais les traînées qui sont longues, qui font plusieurs milliers de kilomètres. Hein, parce que on va dire du sol, ça nous paraît assez court, mais pourtant ça représente des milliers de kilomètres. Hein. Nous paraissent vraiment très très longues, interminables, et puis surtout qu'on se demande qu'est-ce que ça peut être, quoi. Alors les versions officielles, bah, c'est parce que c'est dû à la condensation justement, hein, les fameux, ce qu'on dit, les contrails, dû à la condensation, les polluants, les gaz d'échappement en fait des avions à réacteurs, hein. Donc des réacteurs de l'avion. Produisent de la chaleur, forcément. Et avec ça, donc en altitude, ça produirait en fait un sort de condensation qui ferait des traînées derrière. Voilà. Il y a eu un autre écho qui a été fait aussi par rapport à ça, c'est que à demi-mot, on va dire que ça avait été dit que c'était fait intentionnellement, mais que c'était en fait pour nous protéger des rayons cosmiques et solaires dus à la baisse on va dire, de la couche d'ozone, hein. Ça, c'est pas un secret, hein. La couche d'ozone, les trous ne se sont pas réparés, hein. On n'en parle plus, mais ils sont toujours bien là, ils sont même beaucoup plus graves. Serait en fait pour compenser, on va dire, la faille de la couche d'ozone pour nous protéger des rayons solaires. Bon, alors on pourrait dire que oui, ça peut être effectivement ça. Bon. Bah, mais bon, ce qui est bizarre, c'est que c'est surtout au niveau des composants qu'il y a à l'intérieur, hein. C'est quand même assez étrange ce qu'ils mettent dedans, qui pourrait, on va dire, à quoi vraiment ça pourrait servir ceci. Alors, donc à quoi ça sert? Alors pour l'instant, la seule explication, hein, ça vient de rapports qui présentent l'épandage de produits dans l'atmosphère comme un moyen de faire écran au rayonnement solaire pour réduire le réchauffement dû au gaz et à effet de serre. Enfin, au gaz à effet de serre. Voire géo-ingénierie. Voilà. Le terme technique, c'est géo-ingénierie. Alors c'est ce que je vous disais justement, hein, tout à l'heure, hein, c'était pour protéger, la version officielle, pour nous protéger des rayons solaires. Donc il semble que les épandages n'ont pas qu'un seul but, ces autres buts pouvant être protéger la Terre contre le réchauffement naturel général du système solaire, empêcher les radiations nocives du Soleil d'atteindre la Terre, radiation peut-être due à la destruction bien plus importante qu'annoncée de la couche d'ozone, hein, ce que je vous disais. Alors, on nous disait que la couche d'ozone s'était réparée tout ça, malheureusement le taux de pollution n'a pas changé, hein. Il y a des pays industrialisés comme comme beaucoup le savent, la Chine, qui n'avait pas signé le traité de Kyoto. Hein. Bon, a priori, ça a été fait, mais bon, ce ne sera pas mis en place avant 2020 ou 2030, je ne sais plus. D'ici là, il y a de l'eau qui aura coulé sous les ponts et la pollution qui sera dans le ciel. Hein. Donc, du coup, là, malheureusement, l'état de la couche d'ozone ne s'est pas amélioré. Ensuite, empêcher les cumulus et les cumulonimbus de se développer en hauteur et d'atteindre la haute atmosphère, ou empêcher leur formation pour protéger la couche d'ozone en dispersant des matériaux absorbant l'humidité. La technologie ARP, ça on en parlera dans une autre émission, hein, peut être utilisée dans ces opérations ou fait double emploi étant donné le détournement par les militaires. Oui, parce que le projet ARP est un projet pour étudier, officiellement, pour étudier les couches atmosphériques et la ionosphère et compagnie. Hein, comme je dis, je vous le détaillerai plus tard dans une autre émission. Mais le problème, c'est que tout ceci est financé par les militaires. Bon, on se demande pourquoi les militaires viendraient financer dans des trucs de la météo et tout ça. C'est qu'il doit y avoir très certainement un intérêt, mais alors lequel, ça, on le verra plus tard. Sachant aussi que la technologie ARP est issue quand même des découvertes et des technologies qui ont été trouvées et créées par Nikola Tesla. Qui, pareil, je ferai aussi encore une autre émission sur cette personne parce que ça, honnêtement, ça mérite d'être connu parce que beaucoup de personnes n'ont jamais entendu parler de Nikola Tesla et je trouve ça que c'est quand même assez dramatique parce que chez vous, le courant alternatif, ce n'est pas une création comme peut-être certains le pensent de Thomas Edison. Hein, il a peut-être fait l'ampoule électrique, mais il n'a pas créé le courant alternatif. Le courant alternatif et le moteur électrique, hein, alternatifs ont été créés par Nikola Tesla. Voilà. Bon, ça, j'en parlerai un peu plus tard dans une autre émission. Donc, on ne peut pas exclure que ces opérations soient également utilisées pour d'autres motifs, comme répandre d'autres substances visant la population, produits pharmaceutiques, biologie, etc., comme l'ont montré les analyses de Clifford Carnicom. Les chemtrails semblent être également responsables de la sécheresse permanente. Et oui, parce qu'a priori, vu que ça touche au niveau du climat, il y aurait peut-être des possibilités que les chemtrails jouent par rapport, on va dire, au climat. Donc, forcément, créer des zones encore plus arides telles qu'elles l'étaient. Alors, qu'on sait qu'on peut les voir, justement, ces chemtrails. Alors, il y a plus grande chance de voir des chemtrails juste avant un jour pluvieux ou orageux, après une longue période de pluie, ou au lever du soleil en hiver, ou au coucher du soleil, quelle que soit la saison. Le moment où il y a, on va dire, où il y a très peu de chemtrails, c'est généralement au mois de juillet, spécialement pendant une période de canicule. Alors, si on reprend par exemple l'année dernière, au mois de juillet, j'ai remarqué que tous les dimanches, on peut dire que c'était un peu la fête, hein. Si on peut parler comme ça. Hein. Parce qu'honnêtement, je me rappelle que bon, dans la semaine, on en voyait, mais bon, encore, c'était quelques-uns, c'était pas non plus énormément, hein, de ces fameuses traînées. Mais par contre, tous les dimanches, alors là, c'était comme si les avions, ils étaient tous mis en osmose et puis que ça y allait partout. Hein. On voyait vraiment ce qu'on appelait les fameux quadrillages, parce que vous remarquerez que ces traînées-là sont faites d'une ligne, donc qui correspondent forcément aux lignes du trafic aérien. Et que ces lignes-là, quand d'autres avions viennent, dans le sens, enfin, on va dire perpendiculaire, ça forme des quadrillages. Et ces quadrillages, au bout d'un moment, là, ça finit par s'étendre. Et après, on voit un espèce de voile qui se forme au bout de quelques heures. C'est-à-dire au début, si vous avez une très belle journée, un beau ciel bleu et tout, et que vous commencez à voir ces traînées-là, bah, vous pouvez être sûr que quelques heures après, vous allez avoir un voile. Et d'ailleurs, même dans la météo, alors on se demande d'où sort ce terme, parce que moi, quand j'étais plus jeune, je ne me rappelle pas non plus avoir entendu ce terme, d'entendre « ciel voilé ». C'est comme si, en fait, il nous préformatait déjà, en fait, à dire « attention, on va vous gazer, mais bon, c'est normal, hein, vous inquiétez pas ». Donc, c'est quand même assez bizarre, parce que moi, ce terme-là, quand j'étais jeune, j'ai à la météo, hein, j'ai jamais entendu ce terme « ciel voilé ». Non, c'était nuageux ou dégagé ou à la rigueur peut-être ouais mitigé, mais voilé, non. Non, parce qu'en fait, ce voile-là, c'est même pas des nuages. Par contre, après, par la suite, vous pouvez être sûr que lors de d'épandage, hein, comme c'est indiqué, hein, juste avant les jours pluvieux, bah, vous pouvez être sûr que le jour d'après, il pleut. Hein. Voilà. Alors, vous ne verrez pas de chemtrail, comment dire, quand trop de monde regarde le ciel, eh oui, notamment le 14 juillet, eh oui, parce que c'est la journée du grand public du salon d'aéronautique du Bourget. Et puis aussi, bah, parce que c'est la fête nationale. Donc du coup, on regarde les avions de la patrouille de France qui passent. Donc eux, ils font des traînées de couleurs. Bon, là, ça choque pas. Mais si à côté, il y a d'autres avions qui font des traînées, on va se dire, merde, qu'est-ce que c'est que ces avions-là? Donc du coup, ça le ferait pas trop. Et puis très rarement la nuit. Alors, maintenant, je peux dire qu'il y en a la nuit. Parce que j'en ai déjà vu. Alors, c'est très difficile à voir. On les voit que pendant les jours de pleine lune. Ça est déjà arrivé où j'ai vu des traînées comme ça la nuit avec le clair de lune. Donc on peut dire maintenant on en trouve quand même aussi même la nuit, hein, malheureusement. Voilà, donc les épandages s'arrêtant, sauf exception, toujours au coucher du soleil, quelle que soit l'heure à laquelle se couche, ou comme on peut le voir sur toutes ces animations. Dès que l'indice UV atteint 5 ou 6 et qu'il est prévu qui va dépasser 6 ou 7 dans la journée, il est presque certain que ces chemtrails, que des chemtrails, pardon, sont déjà dans le ciel ou commencent à apparaître. Donc le fameux voile. Vous pouvez trouver les prévisions d'indice UV sur infosoleil.com et l'indice mis à jour toutes les demi-heures sur weather.com. Voilà. Oui, donc en fait, ce voile, bah, ça permet de faire comme un écran solaire, on va dire, au niveau comme de la crème solaire. Donc ça permet de, comment dire, de protéger des rayons solaires pour qu'ils soient moins forts. Donc ça concorde, on va dire, avec les comment dire les informations officielles, enfin semi-officielles parce que c'est pas vraiment officiel à 100% de ces fameux chemtrails. Voilà. Donc on pourrait dire ouais, ça pose pas de souci. Bon. Les avions décrivent des motifs répétitifs facilement repérables dans le ciel. Et donc, il y en a plusieurs combinaisons. Hein, donc, vous avez en forme de croix, ce que je vous ai dit. Les lignes parallèles, ça vous le voyez aussi. Les lignes parallèles barrées. Les changements de direction anormaux. Alors, ça, j'en ai déjà vu quelques-uns. Il y en avait que c'était plutôt marrant. Les avions en formation. Et les quadrillages en carré ou en losange. Les fameux quadrillages. Et on trouve même sur Internet. Des petites formes très sympathiques, il y en a qui se sont amusés carrément à faire un pentacle. Ouais, pourquoi pas. Bon, après, est-ce que la photo qu'on trouve est un photomontage? Très certainement, c'est possible. Mais c'est pas impossible non plus qu'on trouve ce genre-là. Alors justement, je vous disais aussi que ces chemtrails-là finissent par se créer des dispersions, des voiles. Alors en fait, il y a plusieurs types de dispersions. Donc ils sont dispersés par le vent progressivement. À plusieurs stades. Donc les différents stades qu'il y a, donc c'est les torsades, les chenilles, les flammes, les sapins, les traînées et les plumes. Voilà un petit peu ce qu'on peut trouver comme différentes traînées sur ces chemtrails, hein, parce que ça reste quand même très 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 important. Alors, il existe aussi des fois par rapport à ça des phénomènes, d'autres phénomènes un petit peu plus rares. Donc d'autres phénomènes assez rares sont l'apparition d'arc-en-ciel dans les nuages. Oui, on en trouve des photos. Hein. En plein jour, il y a des arc-en-ciel qui se forment alors qu'il n'y a pas de pluie. Hein. Vous savez comment ça se forme, hein, un arc-en-ciel. Hein. L'arc-en-ciel est tout simplement le spectre lumineux de la lumière qui se décompose quand ça passe de l'eau. Hein. Vous prenez un verre d'eau au rayon du soleil. Hein. Par exemple, bah, demain, faites le test. Hein. Vous mettez un verre d'eau dans un rayon du soleil et vous allez voir. Sur le bord de la table, vous allez voir bah, le spectre de la lumière. Voilà. Si demain il fait beau, vous pouvez faire l'expérience. Hein. Ça, c'est une expérience qui est très connue, qu'on le fait aussi avec des cristaux, les prismes, hein, parce qu'il y a ce qu'on appelle les attrape-soleil Feng Shui, qui permettent justement de faire ce spectre de la lumière. Donc on le retrouve pas forcément avec un verre d'eau, mais vous voyez un peu le phénomène que ça crée. Mais ça, c'est un phénomène tout à fait naturel. Donc, comme je disais, les phénomènes plus rares hein, d'apparition d'arc-en-ciel dans les nuages, vraisemblablement causés par la concentration d'aluminium et de halo géant du Soleil ou de la Lune, appelés cirrostratus non, nebululus, nebulolus, je vais pas y arriver avec ces noms italiens, par la désinformation de l'Organisation mondiale météorologique, Il suffit de faire une recherche sur Google avec ce nom pour voir la majorité de ces photos comportent des chemtrails. Voilà. Ne pas confondre aussi ces phénomènes avec des parhélies, comme certains essaient de vous faire croire et d'autres ignorants, machin, nanana. Bon, voilà. Bon. C'était juste un petit peu pour la petite information. Donc le phénomène de parhélie, principalement hivernal, ce phénomène est dû à la présence de cristaux de glace en suspension dans l'air qui peut intervenir aussi bien l'été que l'hiver, mais bien évidemment plus rare car la température est plus élevée. Voilà. Alors d'après un site, hein, de nos jours, ce phénomène apparaît souvent conjointement avec la matérialisation de traînées de condensation des avions. Dans un de ces cas, se demander si ces parhélies sont toujours naturelles, si elles sont parfois uniquement dues aux nuages artificiels de cristaux de glace générés par les avions. Voilà, donc ça, vous pouvez en chercher un petit peu sur Internet, hein, de voir tout ceci, hein, pour voir les photos, savoir à quoi ça ressemble. Pour savoir à quoi ressemblent des chemtrails, vous pouvez tout simplement regarder dans le ciel. Hein. Bon, là, à cette heure-là, ce serait un peu compliqué. Hein. Vous pouvez regarder sur Internet avec Google, hein, taper chemtrail. Ou alors les fameux parhélies, pour savoir à quoi ça ressemble. Hein. Sinon, vous avez un groupe aussi, vous avez des groupes sur Facebook qui existent sur ça, hein, qui en parlent. Vous avez Chemtrail France, notamment, hein, qui parle de tous ces phénomènes-là. Vous avez aussi une personne aussi sur Facebook, Météo Chemtrail, qui, lui, en fait... fait une météo, on va dire, qui est en fonction des particules de métaux lourds. Hein, parce qu'il faut savoir que dans tous ces chemtrails-là, on retrouve pas que de l'aluminium, hein, il y a du barium, il y a je sais plus trop quoi, il y a plein d'autres métaux qui seraient à l'intérieur. Bon, on n'a pas ça de façon officielle, mais ça a été retrouvé par des analyses dans l'eau, qu'on trouve des métaux lourds, alors que théoriquement, ça ne devrait pas être le cas. On pourrait dire que c'est dû à la pollution des usines, oui, sauf que dans les endroits où ça a été mesuré, il n'y avait pas d'usine à plusieurs milliers de kilomètres. Donc ça reste quand même assez bizarre, hein, parce que bon, si vous avez des usines à côté, hein, par exemple si vous habitez en Chine, ouais, là c'est sûr que si on fait des analyses d'eau lors de pluie, à mon avis, des métaux lourds et je sais pas trop quoi, on va en trouver en pagaille. Hein. On va en trouver en pagaille, hein. Ça sera même limite des pluies acides qui risquent de tomber. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver dans ces chemtrails, hein, sans trop rentrer dans les formules chimiques, parce que pareil, ça n'est pas, on va dire, c'est pas des informations officielles. Les seules choses qu'on peut dire qui sont semi-officielles, c'est que ce voile qui est créé est tout simplement là pour nous protéger des rayons UV, hein, donc UVA, UVB, du soleil. Très certainement aussi des rayons cosmiques pour nous protéger aussi en même temps. D'éviter de griller sur place, hein, parce que soi-disant par rapport à ces semi-informations on va dire officielles, ça, s'il n'y avait pas ça, limite on serait des homards en quelques minutes, voire une heure, deux heures, si on est au soleil. Bon, c'est vrai qu'on remarque quand même que le soleil est beaucoup beaucoup plus fort au niveau de l'intensité qu'il y a quelques années, hein, parce qu'il y a quelques années quand même c'était pas aussi puissant. Donc on ressent quand même que le soleil est beaucoup plus brûlant, qui chauffe beaucoup plus. Donc ça conforte vraiment bien que la couche d'ozone ne s'est pas améliorée, hein, avec les quelques traités qui auraient pu être faits d'éviter la pollution, de limiter la pollution. Malheureusement, c'est toujours aussi efficace. Bon, certes, il y a certaines choses qui ont quand même été arrêtées, hein, comme certains réfrigérateurs et congélateurs qui utilisaient le gaz fréon, hein, pour ceux qui le connaissent, hein, le fameux R22, qui lui était extrêmement polluant et destructeur de la couche d'ozone. Il y en a toujours encore à notre époque qui existent avec ce fameux R22, mais théoriquement, on n'a plus le droit de balancer comme ça. Ce gaz-là doit être absolument récupéré, ainsi que même les autres, hein. Notamment, il y en avait un qui le remplaçait à l'époque, c'était le R134A, gaz réfrigérant. Bon, maintenant, il y en a très certainement d'autres. Hein. Je n'ai pas tout en tête. Hein. Donc, voilà, ces gaz-là, normalement, ne doivent plus être, échappés dans la nature. Ils doivent être récupérés par un professionnel agréé. Donc, c'est-à-dire que vos réfrigérateurs ou congélateurs, hein, par pitié, s'ils sont usagés et qui ne fonctionnent plus, n'allez pas les jeter dans des décharges, on va dire, sauvages. Ramenez-le dans des endroits où il sera recyclé. C'est vraiment très, très important. Voilà, parce que là, il en va vraiment de la, on va dire, de la durée de vie de la couche d'ozone. Hein. Si on n'a plus de couche d'ozone, là, je peux vous dire, on sera vraiment dans la M, hein. Mais vraiment dans une grosse. Hein. C'est-à-dire qu'on ne pourra même plus sortir dehors sans avoir des bâches de protection au risque de se faire cramer ou alors faire comme les vampires, sortir la nuit. Hein. Donc, si on ne veut pas en arriver là, c'est vraiment important de limiter la casse, hein, parce que je pense que là, honnêtement, il y a déjà eu assez de casse. Plus tous ces avions, même si on ne rentre pas dans la théorie des chemtrails, parce que ça, s'il y a des métaux lourds et tout ça, à mon avis, ça lui fait pas du bien non plus. Hein. Ça lui fait pas du bien non plus. Mais toutes ces pollutions-là d'avions qu'il y a, hein, quand, si vous regardez ces traînées-là dans le ciel, bon, même sans trop regarder ces traînées, mais quand vous regardez le nombre d'avions qu'il y a dans le ciel, mais vous imaginez la pollution. Et cette pollution-là, elle est même, on va dire, pire que celle qui est terrestre, parce que celle-là, elle est carrément au niveau de la couche d'ozone, quoi. Elle est carrément dans la ionosphère et compagnie. Hein. Donc c'est quand même assez grave. Et juste pour en revenir par rapport à la relation entre les chemtrails et le projet ARP, du fait qu'il y aurait des métaux lourds, ils seraient en fait très réceptifs aux rayons, au dégagement électromagnétique que ce projet ARP dégage, chargerait cette ionosphère, stratosphère, je ne sais plus trop, enfin, hein, chargerait d'énergie électrique, hein, parce que c'était un peu ça la technologie de Nikola Tesla, hein, c'était de charger électriquement ces points-là pour pouvoir les récupérer plus tard, et que très certainement, bah, eux le réutiliseraient dans un autre but, c'est-à-dire qu'ils le réutiliseraient dans un but de créer des cataclysmes. Hein. Ça, c'est, là, je m'évade un petit peu, hein, parce que je parle un petit peu de ARP, parce que ça a une relation vraiment très, très proche, ARP et Chemtrail, c'est très proche. Hein. Et que voilà, ce serait utilisé pour, par exemple, provoquer des orages magnétiques, électriques, à certains points sur la Terre, provoquer des tempêtes, des cyclones, des tornades, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Ça provoque beaucoup de choses. Mais ça, on en parlera un peu plus sur le sujet qui sera vraiment dédié à ce projet ARP. Hein. Et voilà. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur les chemtrails. Donc dès demain, on peut dire, observez le ciel, regardez un petit peu et regardez, vous verrez. Si vous voyez des très 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 longues traînées, observez-les, hein, si vous avez la possibilité. Hein. Observez-les et regardez comment elles se comportent. Vous allez voir qu'elles vont s'étendre. Si vous en voyez des qui sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus fines, vous allez voir que celles-ci, bah, par contre, ce ne sera pas la même chose. Elles auront plus tendance à disparaître, à s'effacer. Alors, dans ces chemtrails, il existe certains systèmes pour lutter contre cette pollution, hein, pour certains, hein, pour dégager le ciel. Il existe ce qu'on appelle des chembusters. Alors, ben justement, chembuster, donc c'est pour buster, pour tuer le chemtrail. Alors, ça le tue pas vraiment. Ça le détruit pas. On va dire que les métaux lourds et tout ça sont toujours bien existants, mais ça permet d'éclaircir ce voile. Alors, c'est composé de quoi? Alors, c'est composé de tubes en cuivre, de cristaux lémuriens, hein, de quartz lémurien. Donc, si vous savez pas trop ce que c'est des quartz, hein, c'est des quartz, mais très, très spécifiques, parce que les lémuriens, en fait, sont des quartz qui sont striés. Donc, vous pouvez chercher sur internet à quoi ça ressemble, hein, tapez quartz lémurien, donc lémurien, bah, comme les lémuriens, hein, parce que dans la petite anecdote, c'est que ces cristaux-là viendraient de la Lémurie, voilà, chercher le nom, hein, la sœur jumelle de la cité Atlante de l'île de l'Atlantide. Décidément, ce soir, le code HTML me réussit pas le cerveau. Donc voilà. Donc c'est composé de ceci, de différents métaux, hein, qui sont noyés dans de la résine. Vous retrouvez, si je me souviens bien, de l'aluminium, il y a du cuivre. Alors ceux qui sont les plus riches, ils peuvent mettre de l'or. Mais c'est beaucoup plus rare, des copeaux. Donc voilà. Alors, tout simplement, si vous savez ce que c'est qu'un orgonite, hein, hein, bah, c'est la même chose. Le chemtrail est tout simplement un orgonite beaucoup plus puissant, on va dire, qui est vraiment fait pour éclaircir, faire partir ce voile. retrouver le ciel bleu d'avant. Vous pouvez donc rechercher pareil sur internet, hein, vous voyez les différences avant et après l'utilisation. On voit quand même une différence. Alors, comment ça fonctionne ça? On va dire que c'est des énergies subtiles qui sont émises. Donc, c'est tout simplement des orgones. Hein. C'est des générateurs d'orgones. De ce que je vous disais tout à l'heure, les orgonites qui génèrent des orgones qui permettraient en fait de pouvoir réharmoniser le ciel et pouvoir le dégager de tous ces chemtrails. Voilà. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur le sujet de la théorie des chemtrails. Hein. Donc, vous pouvez, comme je vous dis, vous mettre sur le groupe Chemtrail France pour en savoir plus. Et aussi d'aller demander en ami Météo Chemtrail, si je me souviens bien, ça doit être ça, pour avoir un petit peu la météo, on va dire, où se trouvent les particules de métaux lourds détectées, de façon à savoir où c'est qu'il va se passer, hein, parce que notamment il fait beaucoup de recherches sur ça, et il fait des très bonnes relations entre justement les intempéries qu'il y a eu dans le sud de la France, hein, l'année dernière, qui ont causé beaucoup de soucis et qu'il avait remarqué qu'il y avait un rapport avec ces métaux lourds. Voilà. Donc pour la suite des chemtrails, hein, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure au début de l'émission, il y a quelque chose qui est apparu aux États-Unis qu'on appelle la maladie des morgelons. Alors là, on va un peu savoir ce que c'est. Là, par contre, c'est pas vraiment trop une théorie parce que c'est vraiment une maladie. Elle existe réellement. Et ça, vous allez voir, ça n'a rien de vraiment très génial comme maladie. Hein. C'est pas une maladie qu'on en meurt. Hein. C'est pas une maladie, on va dire, comme le cancer ou le sida ou d'autres, des virus autres. Hein. Ça tue pas de cette manière-là, mais à la longue, ça peut quand même nous détruire. Et il y a une relation très proche avec les morgelons, les chemtrails, pardon. Donc les morgelons, donc, ou maladie des morgelons, est un nom français s'appliquant à une maladie dont l'existence n'a jamais été démontrée. Alors, ça c'est ce qu'on dit, mais malheureusement il y a quand même des scientifiques et des médecins qui ont observé ces phénomènes-là et ils sont bien réels. Voilà, maintenant c'est réel. Les études scientifiques actuelles considèrent qu'il s'agit d'un syndrome d'Ekbom. Bon, ça c'était à l'époque, mais bon, maintenant c'est plus vraiment trop le cas. Hein. De nombreuses théories du complot existent autour de cette supposée maladie, notamment celle entourant les hypothétiques chemtrails, n'a jamais été validée scientifiquement. Bah, normal. Si ça reste des théories du complot, on va pas vous dire oui, bah, effectivement, on a fait un complot sur ça, quoi. Ça, ce sera révélé très certainement un jour, mais assez tard quand même. Donc, l'origine du nom Morgelon, ça vient d'où ? C'est quoi son origine ? Alors, en 1790, dans une monographie intitulée « A Letter to a Friend », donc une lettre à un ami, Sir Thomas Browne, qui avait déjà écrit plusieurs maladies rencontrées au cours de ses études, il avait été étudiant à l'université de Montpellier, hein, donc le Languedoc. Donc, l'université de médecine de Montpellier est quand même une université très reconnue. Hein. Met en exergue, cette maladie infantile endémique dans le Languedoc-Roussillon, où elle avait été appelée les morgelons, du nom de petits enfants du Languedoc appelés les morgelons parce qu'ils présentent épisodiquement des poils durs sur leur dos, les autres symptômes de la maladie étant des sensations de fourmis, des toux et des convulsions. Voilà, donc ça c'est l'origine, hein, du nom. En 1935, le médecin anglais C.E. Calvet identifia le nom de morgelon avec celui des masclous, ou une maladie de petites mouches en provençal, hein, parce que, c'est aussi un peu des origines provençales. Cette hypothèse ne fut pas reprise par la suite. Voilà. Donc pour ça, ça s'est arrêté là. En 2002, la technicienne de laboratoire Marie Leito de McMurray, donc de l'entreprise McMurray en Pennsylvanie, alors qu'elle examinait une éruption cutanée inexpliquée sur son propre fils, se souvient d'une lecture ancienne qu'elle avait faite de la monographie, donc une lettre à un ami de Sir Thomas Browne. Aussitôt, elle nomma cette maladie morgelon, à prononcer avec un G du morgel. Hein, on dit morgelon ou morgelon. La question qui se posait était à elle de savoir s'il s'agissait d'une nouvelle maladie ou tout simplement d'une résurgence d'une ancienne maladie oubliée. Il semblait douteux que la maladie du 16e siècle avait quelque chose à voir avec les morgelons d'aujourd'hui. Hein, donc pour rappeler la fameuse sensation de fourmis, les poils, etc. Hein, dans ce que tu disais tout à l'heure. Cependant, les similitudes étaient que Marie Leto s'autorisa à utiliser le nom de morgelon lorsqu'elle dut s'adresser aux politiciens, médecins, médias et même aux autorités de santé. Voilà. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même des petites ressemblances par rapport à ce qui avait été observé comme maladie par Sir Thomas Browne. Alors là, comment dire, il n'y a pas d'étiologie ou de traitement conventionnel connu. De plus, les critères de diagnostic ne sont pas encore formellement établis car la liste des symptômes contient au moins 170. Bon, ça reste quand même à vérifier, on va dire, au niveau de nombre de symptômes. Hein. Parce que bon, entre-temps, ça a quand même beaucoup évolué. Donc, le patient s'estimant victime de cette maladie décrivent un syndrome de polysymptomatique tout d'abord caractérisé par des lésions cutanées dans l'apparence de fibres ou de granules apparaissant sous ou sur la peau. Donc vous voyez un petit peu la relation. Sauf que là, ça n'a rien à voir. Les patients ont l'impression d'être envahis par des insectes, des petites bêtes courant sous la peau, ceux-ci se matérialisant parfois sous forme de fils, granules ou pelotes. Alors pour ceux qui connaissent le parasite de la gale, hein, qui creuse des galeries, là c'est un peu les mêmes symptômes sauf que c'est pire. C'est pire parce que là c'est vraiment une sensation de quelque chose qui est sous la peau, qui gratte et ça démange énormément et ça crée en plus des érythèmes. Hein. Et justement, de ces érythèmes-là sortent des fils blancs qui poussent. On sait pas trop ce que c'est, ils poussent. Et le pire c'est que ces fils-là bougent. Ouais, c'est très étonnant, mais ils bougent. Vous allez savoir pourquoi. Le cas touchant les enfants se manifestant par des boutons blancs au niveau des genoux, joues, bras, mais aussi par des cernes violacées sous les yeux. Généralement, les dermatologues affirment l'existence de cette maladie. Aussi, en juin 2006, le Center of Disease Control and Prevention, donc le CDC, d'Atlanta, aux États-Unis, a entrepris une investigation clinique et scientifique très complète sur les morgelons. Voilà, donc... Il y a quand même eu énormément de cas, donc du coup, ils se sont quand même intéressés de savoir ce que c'était. Alors, attendez. Voilà, parce que j'ai un petit bruit qui m'énerve sur le PC, il faudrait que je regarde ce que c'est. Donc, voilà. Donc, les symptômes de cette maladie. D'après un article publié dans le journal américain de dermatologie clinique, le American Journal of Clinical Dermatology, les symptômes des morgelons comprennent des lésions cutanées allant de l'imperceptible à la défiguration. Ouais, c'est pas très beau. Hein. De sensations de rampement et de grouillement sur ou sous la peau. Et l'apparence de fibres ou de granules sortant de la peau. De plus, en accord avec les statistiques de la Morgellon Research Foundation, la majorité, 95%, des patients infectés mentionnent aussi des symptômes de fatigue invalidante, et de brouillard dans la tête. Et de problèmes pour fixer leur attention. Les patients rapportent aussi une grande incidence, 50%, de fibromyalgie, jointe à des douleurs et des troubles du sommeil. Les autres symptômes incluent une perte de cheveux, une baisse de la vision, des désordres neurologiques et une désintégration des dents en l'absence de caries ou de gingivite. La plupart des patients sont incapables de continuer à travailler et ceux qui continuent à travailler disent qu'ils ne sont pas au mieux de leur forme. Si les auteurs ont déclaré qu'il n'y avait aucun conflit d'intérêt relatif au contenu de cet article, en fait, le papier fut co-signé par le fondateur de la MRF, hein, donc la Morgellon Research Foundation, et par d'autres membres de la MRF impliqués dans le traitement des patients atteints de morgelons. Alors, là aussi, c'est la difficulté des diagnostics. Et oui, ça c'est le gros problème. Les symptômes. Alors, les symptômes de patients s'estimant victimes de morgelons sont multiples et variés et peuvent simuler plusieurs autres affections médicales. Fréquemment, ces symptômes peuvent appartenir à n'importe quelle de ces affections suivantes. La gale, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, un parasitose dû au sarcope, donc un parasite. La dracunculose ou pédiculose, infection d'insectes ou de vers parasites. La dermatite atopique ou eczéma, donc une infection cutanée commune de causes variées incluant le stress. La neurodermatose, eczéma ou autre affection cutanée, condition exacerbée par le grattage, enfin conditionnée par... Oui, c'est ça. La teigne, une infection mycosodique de la peau et des cheveux. La folliculite, une infection des follicules capillaires. La cellulite, une infection cutanée grave. Dermatite séroboïque, une dermatose inflammatoire causée affectant les zones riches de glandes sébacées. Pardon. Impétigo, une éruption bactérienne. Pathétomie, destruction obsessionnelle de sa peau. Hein, donc ça, c'est le truc où on se gratte de façon obsessionnelle alors qu'il n'y a rien. Effet secondaire des drogues dues à l'usage ou à l'abus ou au manque. On peut citer notamment l'exemple du crocodile, un dérivé de la morphine, de la désomorphine consommée par les toxicomanes russes et qui sont souvent mélangés avec de nombreuses impuretés, notamment des produits corrosifs. Cette drogue détruit les tissus et génère des plaies purulentes. Délire parasitaire, une hallucination tactile d'insectes, serpents ou autres parasites corporels rampant sur la peau. Voilà. Alors, le délire de la parasitose. Le délire parasitaire, syndrome de Ekbom, hein, ce qu'on parlait tout à l'heure en tout début sur les morgelons, est l'un des plus fréquents diagnostics différentiels. Ces symptômes sont très similaires à ceux des morgelons. Le sujet atteint rejette le diagnostic conventionnel de leurs symptômes ou croit l'existence d'un organisme ou d'un phénomène qui ne pourrait être observé que par le patient. Il n'y a aucun consensus sur le diagnostic différentiel puisque les morgelons ne sont pas acceptés comme maladie. Eh oui. Enfin, on va dire comme une affection reconnue médicalement, plutôt. Dans son article sur son délire parasitaire, Nancy C. Hinkle souligne 13 fonctions attribuées au délire parasitaire. Plusieurs d'entre elles sont partagées par les patients de 10 ans souffrir de ces fameux morgelons. Ces indications incluent la présentation évidente, d'évidence physique, telles que de lambeaux de peau ou autres débris souvent transportés dans des petites boîtes d'allumettes, signe de la boîte d'allumettes. Une propreté exercive à l'usage obsessionnel d'antibiotiques, antiseptiques, désinfectants, insecticides et autres désodorisants. Le rejet de toute possibilité d'explication psychologique ou autre. La précession d'un traumatisme émotionnel, désespoir, isolement social. La consultation préalable de nombreux médecins sans aucun résultat valable. La croyance que les fibres émergent de leur peau est hyper fréquente chez ces patients. Pour les médecins, cette croyance est généralement regardée comme un simple confus entre les fibres venues des vêtements, lin, avec les fibres émergeant de leur corps. Voilà. Bon, vous allez comprendre un petit peu plus tard que tout ceci, et c'est vraiment pour réfuter les choses, mais bon. Un médecin refusant d'être nommé dans l'article du journal a indiqué qu'il a traité ses patients en plaçant simplement une protection sur la zone de peau affectée pour que les empêcher de se gratter avec des résultats favorables en quelques semaines. Ce qui renforce la théorie dans laquelle les anomalies interprétées comme une manifestation des morgelons ne seraient qu'une conséquence habituelle des lésions de grattage. Les patients qui souffrent de délire parasitaire et qui pensent avoir les morgelons vont souvent de médecin en médecin, nomandiste médical, ça s'appelle, à la recherche de celui qui leur offrira le diagnostic qu'ils recherchent. En conséquence, certains praticiens utilisent le terme de morgelon comme synonyme de délire parasitaire et cette approche peut s'avérer nuisible pour les patients puisque cela renforce l'idée que leurs symptômes ou sensations sont réellement causés par une infection. Alors, on va pas trop rentrer non plus dans le terme de... de tous ces... De tous les morgelons. Hein. On va pas trop non plus en parler pendant des heures et des heures et des heures. Notamment, vous pouvez vraiment rechercher sur la MRF pour en savoir plus. Hein, aussi sur le docteur Leito. Hein. Vous pouvez en savoir... Donc, Marie Leito. Hein, pour en savoir un petit peu plus sur elle, hein, parce que c'est elle qui a donc créé cette fondation, des Morgelons Recherche Fondation. Hein. Donc Marie Leto est diplômée de Bachelor of Science, donc en biologie de l'université du Massachusetts à Boston, et a aussi travaillé comme chimiste. Elle a fondé la Morgelons Recherche Fondation, donc MRF, en 2002, pour motiver par les symptômes de son jeune fils et par ses propres symptômes. La MRF déclare sur son site web Cette fondation sans but lucratif est destinée à la recherche de la cause d'une maladie infectieuse émergente ayant des analogies avec la gale et la pédiculose. La fondation tente d'attirer l'attention du public sur les morgelons via le web et des campagnes de presse. Elle se limite dans la recherche des causes, dans l'étude de symptômes, et elle développe aussi des campagnes par courrier vers les représentants du Congrès des États-Unis pour les inciter à prendre les morgelons au sérieux. En février 2005, un rapport publié par la chaîne locale Fox News précise que dans le comté de Duval, en Floride, le Duval County Health Department a enquêté sur cette pathologie. Le rapport conclut. Il est déterminé qu'après une revue extensive des articles parus sur la maladie des morgelons, que celle-ci est synonyme de délire parasitaire. Voilà. Donc en gros, vous voyez que malheureusement, toutes ces personnes-là, on les fait passer dans un côté qui c'est un délire. Qu'ils pensent savoir avoir une maladie, avoir quelque chose en eux qui sont en train de les ronger de l'intérieur, etc. On les fait passer pour des fous. Alors, c'est vrai que très souvent, cette maladie-là entraîne jusqu'à la psychose, voire même schizophrénie, dans la pire des choses des cas. Hein, parce que vraiment, ça tue, ça fatigue le corps. Alors, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ces fameux morgelons ? Bah ouais, parce que c'est vrai que là, on a vu un petit peu ce qu'on peut en dire sur ces morgelons, mais qu'est-ce que c'est réellement ? Et pourquoi la relation avec les chemtrails ? Alors, on remarque très souvent, des fois, après des épandages très très importants, on voit des fois des espèces de filaments. Il y a des filaments qu'on trouve des fois sur les voitures, sur les arbres, etc. Alors, on se demande ce que c'est. Alors, attention, il existe quand même un certain type d'araignées qui font des toiles et qui, des fois, pendant le vent et tout ça, on peut en retrouver partout. Alors, comment savoir si on a affaire à une toile d'araignée ou si on a affaire à ce genre de filament ? Eh bien, c'est simple. Il suffit de prendre, en fait, un briquet, tout bêtement. Vous prenez le briquet et vous le passez sur ce fil. Si le fil, il brûle, enfin, il disparaît, c'est que vous allez faire une toile d'araignée, donc pas de souci, c'est pas grave. Par contre, si vous avez l'autre filament, que vous passez le briquet et que vous avez beau insister que le fil, il ne fond pas, hein, parce que vous allez voir, une toile d'araignée, ça disparaît en une fraction de seconde, hein, c'est extrêmement rapide. Et là, celui-là, il ne va pas disparaître. Alors là, vous pouvez dire que là, vous avez affaire à une nanotechnologie qui est à la fois synthétique et organique, donc vivant. Certains morgelons qui ont été observés, qui ont été trouvés, hein, parce que c'est ça justement, c'est ces fameux fils morgelons, les ont observés avec une caméra et on voyait que ces fils bougeaient. Alors plusieurs personnes qui fait ça, enfin qui le filmaient, affirmaient qu'il n'y avait aucun courant d'air et tout. Il y en a même certains qui ont été carrément extrêmes, ils l'ont mis carrément dans une boîte hermétique pour montrer qu'il n'y avait aucun courant d'air et on voyait quand même ce truc bouger. Donc ces morgelons-là ont quand même intérêt d'être un parasite parce qu'ils sont vivants, ils bougent. Et ils ont une faculté, c'est qu'ils se répliquent. Si vous avez, alors s'il y a des anciens, on va dire, gators hein, comme moi, hein, des fans de la série Stargate SG-1, si vous vous souvenez des fameux réplicateurs, les réplicateurs étaient capables, en fait, en ingérant le métal dans lequel ils se trouvaient, hein, de pouvoir se répliquer. Eh bien, on a affaire à cette technologie-là, donc ils n'ont pas tout à fait la même forme. Hein. Ben, c'est les fameux fils de morgelons, tout simplement. Hein. Ils sont capables de se répliquer, alors pas avec n'importe quel métal, ils se répliquent avec le fer. D'où le fait pourquoi ces filaments infectent des êtres vivants, et non pas des plantes, à part certaines plantes, mais bon. Pourquoi plus des êtres vivants ? Parce que dans votre sang, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Je pense que certains, ça a dû vous arriver en vous coupant de mettre le doigt à la bouche. Je parle pas aux vampires. Hein. Je parle vraiment aux gens qui ne boivent pas du sang. On n'est pas dans un côté sataniste. Donc quand ça vous arrive, vous coupez un doigt, ou quand vous piquez le doigt avec une aiguille, vous le mettez à la bouche et ça vous donne tout de suite un goût de fer. Ben ouais. Parce que dans votre sang, vous avez énormément de fer. Et ces fibres s'alimentent justement de fer. Donc, du coup, grâce à ce fer-là, il se réplique. Et il y a pourquoi les gens ont ce syndrome de, on va dire, mental, de choses confuses, etc. C'est parce qu'en fait, ces filaments-là vont se loger dans le cerveau. Ils vont se loger là. Alors forcément, là, ce que je vous expliquais là, ça date de quelques temps, hein. Maintenant, la maladie des Morgelons n'est plus prise comme un syndrome psychotique, hein. C'est fini ça. C'est fini parce que maintenant, les choses s'observent réellement. Ça a vraiment été pris au sérieux, beaucoup plus qu'avant. Et surtout qu'en plus, je crois qu'il y a un cas toutes les en moyenne, hein, aux États-Unis. Je crois qu'il y a un cas tous les 4 jours qui est découvert. Ce qui est quand même important. Je crois que ça fait à peu près, et dirais là, à l'heure actuelle, on en serait peut-être plus de 400 000 personnes atteintes de cette maladie Morgelon. Alors on va se dire, ouais, c'est aux États-Unis, donc on est tranquille. Ouais, c'est faux. En France, il y en a aussi. Et oui, en France, on en a aussi, sauf qu'on en parle beaucoup moins. Donc du coup, est-ce qu'il y aura des recherches par rapport à ça? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, par rapport à ces fibres, il y a quand même des recherches qui ont été faites par on va dire des scientifiques, mais qui n'appartiennent à aucune société d'État, hein, qui sont tout à fait, on va dire, libres de leur diagnostic. Hein, on leur dit pas, faut dire ça. C'est déjà arrivé, hein, et qu'ils ont observé donc ces fameux fils qui ne brûlent pas, qui ont déterminé qu'ils étaient à la fois synthétiques et organiques. Alors, je sais qu'il y a quelque temps, il y avait une vidéo. Alors, je sais plus quel organisme qui a créé un organisme, on va dire scientifique français, hein, on va dire d'État, qui se sont amusés à créer justement ces fils-là, très simplement, avec de l'or et puis je sais plus quoi, enfin des particules d'or et un autre d'autres trucs. Ils ont créé ces filaments et qu'on en voit une vidéo sur Internet. J'essaierai de la rechercher pour vous la mettre sur la page de la radio pour vous voyez un petit peu, où ils parlent justement ouvertement des Morgelons, quoi. De ces fibres-là. Alors ils disent, ouais, il n'y a aucun risque, machin, nanana, ouais, sauf que il y avait une personne qui allait donc manger un repas, comme tout le monde, hein, manger une pizza. Hein. Et à un moment, il voyait une espèce de petite pelote, et il se demandait ce que c'était sur sa pizza, donc il regardait comme ça, puis il avait l'impression que ça bougeait. Donc du coup, bon, heureusement, il n'y a pas touché avec les doigts. Et il a observé ça, et puis bon, il a réussi à comment dire, récupérer ce truc-là dans une espèce de fiole, et puis il l'a envoyé à un laboratoire, donc un laboratoire indépendant, bon, pour savoir ce que c'était, pour l'analyser, parce qu'il observait que ce truc-là bougeait. Ça bougeait. D'ailleurs, il l'a même filmé, je crois, il avait filmé sur une fourchette ou un truc comme ça, et il avait filmé, on voyait que le truc bougeait. Hein. Donc ça a été envoyé au laboratoire, puis bon, au bout de quelques temps, il avait toujours pas de réponse. Donc du coup, bon, bah, il a appelé le laboratoire pour savoir, voilà, il a dit, je vous ai transmis un truc bizarre à analyser, et il dit, je voudrais savoir le résultat. Alors, y a quelqu'un qui lui répond, en fait, en lui disant qu'il ne pourra pas avoir les résultats, parce qu'il a dit, le laborantin qui s'est occupé de cette fibre est tombé malade d'une maladie inconnue. Hein, il est tombé malade d'une maladie inconnue. Hein. On se demande bien ce que c'est. Il est tombé malade de cette maladie inconnue. Et puis, tous les échantillons ont été récupérés par l'armée. Voilà. Et les résultats aussi. Voilà. Il a dit tout ce que, il a dit tout ce qu'on peut, enfin, tout ce que je peux vous dire, parce qu'il a dit, c'est juste que c'est quelque chose qui est à la fois synthétique et organique. Voilà. C'est tout ce qu'il a pu lui dire. Il n'a pas pu aller plus loin parce que il était tenu au secret de ne pas dire, de ne pas en dire plus. Bon, il y a quand même un organisme. Alors, je ne sais plus les abréviations. Je crois que c'est ASSP, enfin c'est un nom très long, enfin un acronyme très long, qui justement fait les analyses d'eau, qui a été les premiers à faire les analyses en disant qu'il y avait des métaux lourds anormalement présents dans l'eau de pluie qui tombe en France, que ces fameuses fibres, alors je dis bien fibres de Morgelon, hein, des pelotes, hein, je ne parle pas des toiles d'araignée, hein, ne tombez pas dans la psychose. Dès que vous allez voir un truc blanc sur votre voiture, ne vous dites pas, ça y est, c'est un Morgelon. Hein. Non, non. Si vous vraiment voulez vous rassurer, moi, je veux dire, je l'ai déjà vu. Hein. J'ai pris le briquet, j'ai brûlé. Et honnêtement, pas une seule fois, ça résistait. Hein. À chaque fois, ça a toujours brûlé. Donc voilà. C'est pas non plus quelque chose qui est extrêmement courant. Heureusement. Heureusement. Parce que bon, on sait pas trop ce que c'est que ce truc-là. Et puis déjà, qu'est-ce que ça vient faire? Bon, déjà, si vous voyez des choses qui tombent du ciel, un jour où il y a des épandages de chemtrails très forts, vous voyez des trucs tomber du ciel, laissez-les tomber par terre, mais les touchez pas. Hein. Si possible, évitez de vous faire toucher par ces trucs-là. Quand je vous dis, pas tomber dans la psychose, mais comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Parce qu'il faut savoir que cette maladie des morgelons, personne n'en a guéri. Alors j'ai trouvé des témoignages de personnes qui ont réussi à se guérir de ça, hein, notamment un monsieur qui avait dit que sa femme, donc un Français, hein, sa femme était atteinte de la maladie des morgelons, hein, et il était allé donc en Inde. Et elle avait subi, elle avait suivi en fait un traitement ayurvédique et elle s'en est sortie. Alors qu'est-ce qu'elle a, elle a subi par rapport à ça comme traitement, je ne sais pas. Mais ce qu'on avait fait comme réflexion avec l'ancien co-animateur qui était dans cette émission-là, on a très certainement pensé que ça avait un rapport avec le fer contenu dans le sang. Peut-être qu'en fait, comme vous savez, les fameux candidats albicans, voilà, qu'on a naturellement dans les intestins, mais des fois, il arrive qu'ils deviennent trop développés. Hein. Ça, c'est notamment quand on consomme trop de choses à base d'amidon, etc. Pour les éliminer, certes, il y a les... On va dire... Les trucs hyper forts, hein, les médicaments, hein, même si ça détruit tout, plus qu'autre chose. Bon, le problème, c'est qu'on les tue et après, bah, il n'y a plus rien. Mais des fois, et ça met un certain temps. Le meilleur des choses, c'est avoir donc un traitement homéopathique et donc qui est beaucoup plus, on va pas dire naturel, ça reste quand même un médicament. C'est encore reconnu comme un médicament, mais qui est moins... on va dire moins néfastes que des antibiotiques et compagnie. Et surtout, on les affame pour qu'ils diminuent. Donc, on ne donne plus certains aliments comme l'amidon et compagnie pour le gluten, etc. pour plus qu'ils puissent s'alimenter. Et bien là, les morgelons, je pense que dans le traitement ayurvédique, il a dû se passer ça, c'est qu'ils ont dû réduire le taux de fer. Et de fait, à appauvrir les morgelons, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus capables de se nourrir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont barrés ailleurs. Voilà, ils sont partis. Alors, vous pouvez trouver des photos dessus. Hein. Alors, surtout, ayez le corps accroché, hein, parce que ça reste quand même assez costaud. Hein. C'est quand même des photos qui sont assez bizarres. Des vidéos aussi, où on voit des gens qui ont carrément un fil qui peut aller jusqu'à 30 cm, qui sont dessus et qui tirent, et qu'on voit que ça vient de la peau. Hein. Un fil blanc. Alors, des fois, la lumière, il peut changer de couleur. C'est ça qui est très bizarre. Hein. Et surtout, cette sensation d'avoir quelque chose qui court sous la peau, qui une sensation qui est horrible, qui te fait des démangeaisons hyper fortes, hein, comme la gale. Hein. Sauf que là, c'est pas de la gale, hein, parce que la gale, vous pourrez regarder entre la gale et les morgelons, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment trop de concordance. Hein. Voilà, parce que bon, on peut dire, ouais, ça peut être la gale, ouais, sauf que c'est pas trop pareil. Hein. Y a, ça a quand même une sacrée différence. Donc voilà un peu ce qu'on peut trouver sur les morgelons, hein. Donc vous pouvez chercher sur internet, hein, surtout ayez le cœur accroché, hein, parce que ça reste quand même assez fort. Certains ont observé des espèces d'insectes qui sortaient de leur peau, mais des insectes inconnus. Ça a même été pris en photo, en microscope électronique, enfin voilà, parce qu'il y a des scientifiques qui sont quand même intéressés à ça, donc il y a quand même quelque chose. Donc la relation entre les chemtrails et les morgelons reste à faire. Ah, parce qu'il n'y a pas vraiment de preuve qu'il y a un rapport avec ça. Ce serait possible, mais il n'y a pas vraiment de preuve. Le méthode d'infestation des morgelons est inconnue. On ne sait pas. Hein. Donc, comme je vous dis, si vous avez un fil qui ne brûle pas avec le briquet, par principe, ne le touchez pas. Laissez-le où il est. Point barre. Au pire, si vous voulez vraiment, vous pouvez tenter d'avertir la gendarmerie, mais je pense qu'à mon avis, on vous prendra plus pour un fou, puis les gendarmes ne vont pas se déplacer pour ça. Voilà. Si vraiment vous voulez le faire analyser, ben y a pas de souci, vous trouvez un petit flacon, vous le mettez dedans, vous prenez un morceau de bois ou n'importe quoi, vous le touchez pas avec les mains parce que vu qu'on ne sait pas comment ça rentre, vaut mieux éviter le maximum de contact. Hein. Il y en a que des fois ils les touchent, moi personnellement je ne recommanderais pas de le toucher, à part si c'est une toile d'araignée, ça risque rien. Mais voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur cette maladie morgelon, ben vous pouvez chercher sur internet, hein, vous tapez « maladie des morgelons ». Et voilà, et vous trouverez soit des photos, soit des textes qui vont en parler. Bon, ne tombez pas dans la psychose, hein. Il y a peut-être quelques cas en France, mais il y a quand même beaucoup plus de cas de, on va dire, de maladies comme, comme le sida ou des maladies sexuellement transmissibles qui font bien plus de ravages, hein, dont une qu'on ne parle pas beaucoup, par exemple la syphilis, hein, elle fait beaucoup plus de carnage et beaucoup plus de victimes que les morgelons. Donc voilà, c'est quelque chose à connaître, à savoir pour sa culture, mais à pas non plus tomber dans la psychose. Et surtout avec les chemtrails, ne tombez pas non plus dans la psychose. Hein. Observez, voyez les choses qui sont là. Bon, informez-vous sur ça. Vous ne pourrez pas en faire grand-chose. Mis à part, si vous voulez vraiment faire quelque chose, bah, ce que vous pouvez faire, c'est soit fabriquer un chembuster ou trouver des orgonites spécifiques pour ça. Je sais qu'il y a un Allemand qui le fait, c'est Energy Kegel, le nom. C'est ça, Energy Kegel. Le nom de l'Allemand, je ne sais plus. Hein. C'est un Allemand qui fait ça. Je crois qu'il fait payer une trentaine d'euros, un truc comme ça, en plâtre. Et son produit est très... très efficace, hein. Je l'ai déjà vu en action, honnêtement ça marche très bien. Donc voilà, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire ce soir sur les chemtrails et donc les morgelons, voilà pour ce soir. Alors j'espère que ça vous a apporté quand même des petits, pas mal d'informations en plus, hein, que ça vous a pas fait non plus tomber dans la paranoïa. Excusez parce que par moment j'ai un bruit sur l'ordinateur, je sais pas trop ce que c'est quand je m'appuie dessus, donc j'espère que vous ne l'entendez pas. Donc vous, comme je vous disais, vous allez retrouver ce podcast, hein, peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être dans 15 jours, quand le nouveau site sera mis en place. Et puis, bah, j'ai aussi une autre information, hein, je vous en avais un peu parlé sur la page, d'une nouvelle émission. Et effectivement, une nouvelle émission va être lancée ce soir, hein, donc juste après, hein, après la pause musicale. Vous allez retrouver en fait Alexandra qui vient de rejoindre notre équipe de Radio Terra Zen pour une toute nouvelle émission qui est donc Terra Zen Découverte. Et avec elle, on découvrira de nouvelles choses. Hein. Donc, ce sera pour nous parler de livres, hein, de livres à lire et tout ça, pour découvrir encore plus d'informations complémentaires par rapport à l'émission de Terra Zen Live. Donc, voilà. Donc, sinon, si, petite pub, hein, si vous voulez nous rejoindre dans l'équipe et que vous avez un projet d'émission qui pourrait apporter un plus à Radio Terra Zen, il n'y a pas de souci. Hein, il suffit juste de me contacter sur la page Facebook, hein, Radio Terra Zen. Ou alors m'envoyer un email, hein, radioterrazen@outlook.fr, voilà, et ou sinon par le biais du formulaire de contact du site et bien sûr aussi sur le prochain, voilà. Donc j'espère que ça, ce soir ça vous aura bien plu et puis bah, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission TerraZen Live, hein, parce que je pense qu'elle sera maintenue. Et bah, je vous retrouve après à l'émission d'après avec Alexandra pour nous parler d'un livre dans la toute nouvelle émission Terra Zen Découverte. Allez, passez une très très bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.